Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. En ce temps-là, le français dominait le monde. Antoine de Rivarol y voyait le signe de son universalité. Un règne fait pour durer après avoir triomphé de sa plus grande rivale, la langue anglaise. À celle-ci, le grand prosateur de la fin du XVIIIe siècle ne trouvait que des défauts. Sa syntaxe, écrivait-il, est si bizarre que la règle y a quelquefois moins d'application que d'exception. On lui trouve des formes serviles qui la rendent moins propre à la conversation que la langue française. Or, si Rivarol revenait aujourd'hui, il aurait sans doute du mal à en croire ses yeux et ses oreilles. Dans la culture comme dans les affaires, l'anglais domine, sous une forme certes rudimentaire, mais si une langue est devenue hégémonique, c'est bien celle-ci. En face à cette domination, que peut la langue française? Ceux qui prétendent la défendre l'instrumentalisent parfois davantage qu'ils ne la servent. Ainsi, la fameuse clause Molière, cette obligation locale, faite aux entreprises de travaux publics de n'embaucher que des personnes capables de comprendre le français et de le parler, une posture défensive pas forcément efficace. Alors, jusqu'où imposer la langue de Molière? Eh bien, c'est une question que nous posons à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Nous la posons ce soir à Chantal Delsol. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeure de philosophie politique à l'Université Paris-Est, historienne des idées. Vous avez publié votre dernière tribune dans le Figaro consacrée justement à cette clause Molière, la clause Molière ou l'esprit est des lieux. Vous avez par ailleurs, entre autres ouvrages, mais préfacé les œuvres complètes de Rivarol que oui. Je citais en début de cette émission, publié l'an dernier dans la collection Bouquin chez Robert Laffont. Pour discuter avec vous, Olivier Baude, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences du langage à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes directeur scientifique de l'Observatoire des pratiques linguistiques qui fait partie de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui fait elle-même partie du ministère de la Culture. Mais ce n'est ni au nom de cette délégation, ni au nom encore moins bien sûr du ministère que vous vous exprimez ce soir. Et puis troisième invité, quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne pour l'entendre très souvent lorsqu'il y a des invités anglophones qui sont conviés. C'est Xavier Combes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes interprète de conférences et traducteur. Vous présidez l'Association française des interprètes de conférences indépendants. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, c'était en 2011, 11 plus une proposition pour défendre le français. Vous y parlez notamment d'un certain globish, le global English, sur lequel nous allons avoir l'occasion de revenir au cours de cette discussion que je souhaiterais donc commencer en revenant donc sur cette clause Molière avec un premier argument qui est avancé pour défendre cette idée par ses promoteurs, qui est celui de la sécurité. Est-ce que d'abord, vous seriez d'accord les uns et les autres pour dire que c'est un argument qui, sur le principe en tout cas, est recevable, que quand on veut assurer une sécurité dans des endroits qui peuvent être dangereux, parler la même langue, ça peut être quelque chose d'utile, Chantal Delsol?
Oui, c'est certainement très important. Mais quand on voit que, à travers cette clause, on propose d'imposer un interprète quand il n'y a pas de possibilité enfin, on n'imagine pas bien l'interprète sur les échafaudages qui passent de l'un à l'autre. Vous voyez, d'abord, au-delà du fait que ça coûterait très cher. Donc, je ne suis pas sûre que l'argument de la sécurité soit vraiment, une toute petite chose au-dessus d'une montagne d'autres arguments. Enfin, personnellement, si je défends la clause Molière, c'est pas précisément à cause de ça.
Voilà, c'est pas au nom de la sécurité.
C'est pas au nom de la sécurité.
Alors, comme vous le mentionnez, voilà, si il n'y a pas la possibilité, à travers cette clause Molière, pour les entreprises de travaux publics, d'avoir des gens qui comprennent suffisamment le français, il y a effectivement l'idée d'imposer des interprètes, ce qui ne doit pas déplaire à un interprète comme vous, Xavier Combes.
Interprète sur un échafaudage avec un casque de chantier, c'est un côté oui. Comique qui m'attire. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que ça soit très sérieux sur le plan financier, ni même sécuritaire, parce qu'il faut former les interprètes à
bien
travailler
sûr,
sur les chantiers. Imaginez le coût que ça représente. Ouais, non, je crois que c'est en réalité...
Je ne crois pas que ça soit le vrai argument. En
fait. Non, je n'ai pas l'impression. On sent tout de même que c'est un prétexte fallacieux. Et puis, il y a un certain nombre de chefs de chantier qui ont été interrogés par les médias et qui ont donné leur point de vue et qui ont expliqué que l'enjeu n'était pas là.
Vous êtes d'accord, Olivier Baude, pour dire ouais. Qu'on est davantage dans le prétexte que dans les véritables raisons qui...
On est dans le prétexte à deux niveaux, mais c'est très fréquent avec toutes les questions de société sur la langue. bien sûr que c'est pas un argument de sécurité, bien évidemment, mais l'argument linguistique ne tient pas la route non plus. C'est pas cette question qui est traitée là, c'est une question qui est très importante, qui est très sérieuse, et les questions linguistiques sont très sérieuses aussi, mais les mélanger ici revêt de ce qu'on connaît toujours quand il est question de langue en France, c'est toujours autour d'une idéologie linguistique qui, je dirais pas perturbe, qui pollue la réflexion sur les langues. C'est toujours le problème qu'on a et qui bloque, y compris d'ailleurs, la bonne défense du français.
Qu'est-ce que vous entendez par idéologie linguistique ?
Ben, l'idéologie linguistique, c'est que c'est tout simplement, je veux donner un exemple. Quand en 1992, le Congrès a été réuni pour rajouter dans la Constitution que la langue de la République était le français. La première version qui avait été votée à l'Assemblée nationale était de dire que le français était la langue de la République. Vous voyez cette inversion, c'est-à-dire que en France, on considérait tout de suite que le français c'est la langue de la France, et il a fallu que la francophonie monte au créneau pour dire non, excusez-nous, le français c'est aussi la langue d'autres pays. C'est pas la langue que de la France. Et deuxième élément, il était précisé dans cette constitution, au même niveau que le drapeau tricolore, que l'hymne national, que le français était la langue de la République. Pas de l'État, mais de la République. Et on a toujours, depuis la Révolution française, mais même avant, instaurer cette idéologie linguistique que la République se constituait autour d'une langue, et d'une seule langue, qui serait universel. C'est cet élément-là qui est repris à chaque fois dans toutes les discussions sur la langue, alors que la réalité est bien autre. Voilà.
Est-ce que cet élément-là, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Chantal Delsol ? Est-ce que vous l'entendez, justement, cet élément ressurgir à la faveur de ce débat autour de cette clause Molière ?
Oui, je voudrais d'abord dire qu'à propos de Rivarol, en fait, et justement, ça, j'en reviens à ce que vous dites. Rivarol, en fait, est le seul auteur, je crois vraiment, français, qui parle d'universalisme, d'universalité de la langue française, qui dit notre langue est universelle, ce qui est un peu, c'est quelque chose d'un peu ridicule. Mais il y a un certain nombre de pays dans lesquels on a considéré à certaines époques que la langue est universelle. Par exemple, le panslavisme russe, ou bien alors, beaucoup plus encore, l'Allemagne. Enfin, il y a eu, pendant des siècles, les Allemands ont dit que Adam et Ève parlaient allemand. Vous voyez? Et on trouve ça dans les textes de Fichte, par exemple, au début du 19e. Donc, c'est, en France, il y a juste cet auteur très talentueux, un peu fou, il faut bien dire, ce Rivarol qui pense ça. Bon, mais évidemment, ça, j'appellerais ça effectivement une idéologie linguistique. Bon, aucune langue n'est universelle, aucune langue n'a été parlée par Adam et Ève, enfin, aucune langue que nous connaissons, si encore Adam et Ève ont existé. Alors, quand vous parlez d'idéologie linguistique ici, à propos de la République, là, je vous avoue que je comprends pas très bien ce que. Est-ce que vous voulez dire que dans notre République il y a un certain nombre de langues et pas seulement le français ? Évidemment, il y a des gens qui parlent d'autres langues, mais est-ce qu'on pourrait pas dire quand même, sans tomber dans une idéologie quelconque, que le français, quand même, bon, ce que j'ai appelé l'autre jour l'esprit des lieux, c'est quand même. Oui, je dis bien l'esprit des lieux, pas forcément le fondement de notre culture, mais disons cet esprit par lequel tout passe. C'est pas de l'idéologie de dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas.
En 1794, le rapport de l'abbé Grégoire, à la sortie de la Révolution, ça s'intitule « Sur la nécessité d'universaliser la langue française et d'anéantir les langues et patois ». Cette idée-là, qui n'est pas celle de la Révolution, qui est celle de la Terreur, la fin de la Révolution, cet aspect-là, s'oriente de cette manière-là. C'est la langue, la République se constitue autour d'un peuple unique, avec une liberté, une égalité très intéressante. Et sur la question linguistique, ça se repose sur une langue unique. Mais une langue unique qui ne peut exister que si les autres meurent.
Ouais, d'accord.
C'est ce qui a été fait. Et résultat, systématiquement, on a cette idéologie et cette difficulté colossale en France à penser le français comme effectivement comme langue d'accueil, comme qui est en contact avec les autres langues parfaitement, et on la pense comme langue unique. Or, on peut la penser comme langue au cœur de.
Je comprenais pas ce que vous vouliez dire. D'accord.
Voyez,
je comprends
cette idéologie-là, elle est présente dans toutes les discussions sur les questions linguistiques et d'accord. Sur les questions de politique linguistique surtout. C'est donne une erreur continuelle des politiques.
Alors avant de revenir à vous, Chantal Delsol, je voudrais qu'on réentende Xavier Combes. Vous qui traduisez l'anglais vers le français, est-ce que vous faites le constat de cette idée quand même qui serait peut-être encore importante, selon laquelle le français aurait gardé une part de son universalité, en tout cas que la langue française aurait du mal à se considérer comme une langue comme les autres?
Oui et non, parce qu'on est quand même à un tournant dans l'histoire des langues, à mon avis, moi je vous dis ça du point de vue du praticien, c'est que moi il me semble que pendant des siècles, les langues d'une façon générale, et le français en particulier, ont été enrichies de nombreuses langues étrangères différentes. Aujourd'hui, l'enrichissement exogène du français émane essentiellement d'une seule langue qui est l'anglais. Rares sont les mots nouveaux dans la langue française qui émanent d'une autre langue que l'anglais. Je vais vous donner un contre-exemple qui est tsunami. C'est pas un mot anglais à l'origine, mais c'est un des rares mots nouveaux dans la langue française qui n'est pas d'origine anglaise. Mmh. Donc, la langue française est contaminé, le mot est peut-être fort, mais fortement influencé par la langue anglaise. À tel point que cette... Donc là, on peut vraiment parler d'idéologie, parce que l'anglais, c'est tout de même une langue qui est ancrée dans une pensée idéologique néolibérale qui remonte au début du néolibéralisme, disons Reagan-Thatcher, donc ça remonte à peu près à ces années-là, avec Milton Friedman, tout ce que vous voulez. Donc ça, on sent à quel point le français est perméable à la langue anglaise. Et évidemment, ça a un effet tout à fait délétère, non seulement sur la langue, mais sur la culture.
Alors justement, j'en reviens à ma clause Molière. Est-ce qu'en prenant de telles mesures qui a priori ne vont pas s'adresser à des ouvriers qui parleraient exclusivement l'anglais, c'est pas de ces pays-là auxquels on pense, mais qui parlent des langues qui peuvent être par exemple, alors s'agissant de l'Union Européenne, on va plutôt aller chercher du côté de la Bulgarie, de la Roumanie, c'est-à-dire des pays où les normes sociales sont quand même beaucoup moins élevées que le français, est-ce qu'on ne se prive pas, peut-être de manière indirecte, Chantal Delsol, mais d'un enrichissement de la langue française, c'est-à-dire finalement en empêchant les autres langues de venir chez nous, est-ce qu'on ne fiche pas la langue française et est-ce qu'on ne la dénature pas, est-ce qu'on ne la fragilise pas?
D'abord, on n'empêche pas la langue de venir chez nous. Nous avons un très grand nombre de gens, moi je connais un très grand nombre de gens, je pense que c'est votre cas aussi, qui viennent d'autres pays, qui parlent parfaitement notre langue, parce qu'il a bien fallu qu'ils l'apprennent pour vivre ici convenablement, mais qui parlent aussi leur langue à eux, et qui nous apportent beaucoup. Il y a beaucoup de gens en France qui parlent deux langues, trois langues. Nous essayons tous de parler des langues. Enfin, moi, c'est pas tellement ça que je regarde. Ce que je regarde, c'est, à propos de la clause Molière, c'est la situation des personnes en question. Le fait de considérer des personnes comme ça, comme des marchandises, qui viennent pour travailler, qui ne peuvent même pas se mettre dans le bain de la culture, qui n'ont même pas leur famille avec eux, qui repartent après avoir travaillé 20 heures par jour, je trouve ça positivement inhumain.
Vous écrivez, il est insensé de vouloir laisser courir des travailleurs d'un pays à l'autre, là où les embauches existent, sans apprendre la langue et les coutumes et sans s'accrocher nulle part.
Voilà, et sans avoir leur famille, moi j'ai toujours été complètement favorable du regroupement familial. Enfin, voilà, je pense que c'est complètement immoral de comme ça de faire traverser des frontières à des
oui,
personnes. Ce sont des personnes.
C'est fait pervers de la politique européenne sur les travailleurs.
Ce sont pas juste des bras, ce sont des personnes.
Bien
quoi.
Sûr. Mais Olivier Baud. Oui, vous voyez l'ambiguïté qu'il y a. Je suis entièrement d'accord avec vous et. Ce qu'on devrait voir apparaître ici, c'est pas, c'est les droits linguistiques. En fait, ce sont les droits des personnes, les droits de locuteur. Là, il y a une raison d'avoir une politique linguistique. Mais imposer une langue, encore une fois, ici, ça relève de l'idéologie. Vous faites cet amalgame assez rapidement en pensant qu'il faut venir dans un pays avec la langue de ce pays.
Ben, on l'apprend.
Mais pas obligatoirement. La France a vécu en grandeur, des centaines d'années avec des gens qui parlait des langues différentes. La guerre de 14 était c'est à que toutes les langues étaient parlées et pas le français dans les tranchées.
C'est pas tout à fait pareil comme situation.
Non, c'est des tranchées, mais c'est un jeu de mots.
Mais quand vous dites on l'apprend, Chantal Delsol, est-ce que le milieu professionnel, le travail, n'est pas justement le meilleur endroit peut-être pour faire cet apprentissage?
Oui, mais enfin, je constate quand même qu'il y a énormément de gens qui viennent en France maintenant, surtout des gens de milieu modeste qui viennent et qui n'apprennent pas la langue parce qu'ils n'y viennent que pour travailler, et je pense que c'est bon ni pour eux ni pour nous. Enfin, c'est bon pour personne. C'est c'est pas, je pense que c'est carrément pas humain quand on est dans un endroit. Il faut s'adapter pour bien vivre.
Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait imposer finalement aussi cette règle, par exemple un travailleur français qui travaille dans une entreprise française et imaginons qui obtient un chantier en, allez, prenons un autre exemple, en Grèce.
Est-ce qu'il si vous allez travailler en, par exemple en Suède, c'est un exemple que je connais parce que je connais des gens qui sont allés. Vous ne pouvez pas rester en Suède plus de 2 mois ou d'un mois de vacances sans commencer à prendre des cours. Vous prenez des cours de suédois, même si le suédois est vraiment la langue secrète par excellence, qui ne se parle qu'en Suède, ou à peu près. Donc, je trouve ça parfaitement normal et c'est bon pour tout le monde. C'est pas du tout de la préférence nationale ou la grandeur du français. C'est absolument pas ça, non. Je crois pas.
Vous savez combien
de là à l'imposer, de légiférer. Faut aussi tenir compte un petit peu des phénomènes naturels de la sociologie, de la démographie, de l'économie. Votre question, Hervé, c'est jusqu'où imposer la langue de Molière? Faut-il légiférer? Faut-il imposer les choses avec le peu d'efficacité que cela peut avoir, évidemment?
Et encore qu'il y a eu des lois qui ont cherché, alors si ce n'est à l'imposer, mais en tout cas à réguler l'usage du français. Là, on va revenir quelques années en arrière. En 1994, les lois Toubon, c'est pas seulement une loi, mais il y a plusieurs lois. Il y a la loi qui concerne l'usage du français dans les entreprises, dans les administrations, et puis le français aussi, notamment dans l'audiovisuel, les quotas de chansons françaises. Il y a bien eu besoin, à un moment donné, quand même, de prendre quelques directives pour... Alors, je ne sais pas si c'était pour protéger la langue française. Oui, c'était quand même dans cet esprit-là.
Ben, c'est pour la promouvoir et puis surtout pour éviter un certain nombre d'errements, notamment dans la sphère publique. Force est de constater que cette loi Toubon a été brocardée et pas du tout respectée parce que de l'aveu même de son père, Jacques Toubon, elle est mal ficelée parce qu'on ne peut pas en réalité se réclamer de la loi Toubon pour porter plainte. Directement, il faut faire appel au parquet. Et le parquet, évidemment, va classer les affaires sans suite, parce qu'il a autre chose à faire que de s'occuper de la loi française. Mais par exemple, on peut dire qu'aujourd'hui, dans Paris, il y a plus d'anglais sur les murs qu'il n'y avait d'allemands pendant l'occupation. C'est vrai, c'est un fait. Il y a de l'anglais partout sur les murs de Paris. Vous voyez par exemple les publicités que font les régions, les départements de France pour attirer les touristes. On touche le fond. L'Aisne, it's open. Hauts-de-France, welcome home. Le Limousin, are you Lim? L'Isère, is there any better place in the world? On voit de l'anglais partout, même pour la pub des conseils régionaux. Donc c'est absurde. Donc évidemment, dans la loi Toubon, il est dit qu'il faut que tout propos étranger soit suivi d'un astérisque qui lui-même rapporte à une traduction aussi lisible que le texte en langue étrangère. Absolument pas respecté. Pourtant, ce serait pas une mauvaise chose.
Et j'ai un autre exemple, d'ailleurs, à vous soumettre, que vous allez pouvoir nous traduire juste après l'avoir écouté, Xavier Combes. On en profite de votre présence, qui s'affiche, cet exemple, sur les murs de l'hôtel de ville de Paris.
Here in Paris, we want the games with a passion. Games for the athletes. In a city where sharing is a way of life. Sharing of emotions, ideas, and passion. Sharing to drive progress and innovation. Sharing to unite us and to strengthen sport. Sharing. This is what we were made for. Paris 2024. Made for sharing.
Avec la mémoire phénoménale qui est la vôtre, Xavier Combes, vous allez pouvoir nous faire une traduction quasiment littérale.
Littéralement traduite.
Et intégrale.
Conçue pour le partage, c'est ça le slogan de Paris. Donc c'est du marketing. Mais...
Alors c'est la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors c'est un clip, alors faut être honnête, qui est en anglais à destination de l'extérieur. Celui qu'on entend en France n'est pas en anglais, sauf le slogan qui, lui, donc, est Made for Sharing.
Oui, il n'y a pas d'équivalent français à ce slogan, d'ailleurs. Made for Sharing, c'est comme ça, en français.
Ce qui est intéressant, c'est que les gens du comité de candidature disent pourquoi est-ce qu'on a choisi finalement un slogan en anglais plutôt qu'un slogan en français. Ils disent on voulait donner un caractère universel au projet et nous pensons que le meilleur moyen de défendre la langue française dans le monde de l'olympisme, c'est de gagner l'organisation des Jeux 2024. Qu'est-ce que vous pensez, les uns et les autres, de ce genre d'argument, Olivier Baud?
Je vais vous donner un exemple qui provient du cinéma. Quand le cinéma français va aux États-Unis, il est en version originale sous-titrée, ce qu'on préfère tous ici. Mais résultat, ça le bloque, il n'est quasiment pas diffusé et personne ne le voit aux États-Unis. Quand les films américains arrivent en France, ils sont en version française et il, c'est
en
un
VO,
raz-de-marée.
Et en VO.
C'est un raz-de-marée partout. Voilà, voilà la difficulté qu'on peut trouver. Si vous voulez défendre, il y a des manières de défendre une langue. Le faire en voulant imposer l'usage partout et l'universaliser, ça ne marche jamais. C'est comme dans les relations d'amour. Les relations avec la langue sont des relations très intimes, très précises.
Et l'anglais n'a pas eu besoin d'être imposé pour se diffuser de
si
manière
vous voulez,
aussi importante.
Si vous voulez, il faut prendre en compte les rapports de force actuels. J'imagine bien. Vous avez les mêmes. Je les connais dans les productions scientifiques. Les productions scientifiques actuellement, les chercheurs français publient en anglais. Ils n'ont plus le choix, temporairement au moins, de le faire autrement, au moins dans un certain nombre de disciplines. Là, on peut imaginer que l'argument était le même, effectivement. Gagner les Jeux Olympiques, ça a passé par un slogan qui pouvait être universel. Mais j'allais dire, c'est pas grave. C'est pas ça qui est grave.
C'est quand même un coup de canif et quand même une reculade, parce qu'on aurait quand même pu faire montre d'un petit peu plus d'imagination, d'une meilleure connaissance de la langue anglaise, et on aurait pu trouver un slogan en anglais avec des mots français.
Oui, mais on peut.
Si vous dites amour, si vous dites rendez-vous, des mots comme ça, c'est tout à fait compréhensible en anglais, à l'échelle mondiale. Alors aller chercher « made for sharing », qui est grammaticalement assez complexe et pas forcément compréhensible de l'ensemble des non-anglophones...
Même à prononcer, moi j'ai un peu de mal.
On aurait pu faire mieux.
Non, mais vous avez raison, mais le débat n'est pas là. C'est tout.
Ça dépend aussi, le débat, c'est jusqu'où imposer la langue de Molière. Défendre la langue française, il faut le faire de façon créative et pas passive et conservatrice.
Jusqu'où imposer, c'est défendre les droits. Ce qui est important, c'est d'avoir, quand on est en France, le droit de parler en français qui soit préservé. Ça, c'est le plus important, effectivement. C'est ça. Et de ne pas être obligé de parler anglais.
C'est ça.
Il ne faut pas inverser. Les questions sont celles des droits linguistiques et non pas d'imposer une langue.
Chantal Delsol.
Vous avez parlé de rapport de force, vous avez raison, il y a un rapport de force. On va voir bientôt, si d'ailleurs ce n'est pas encore déjà fait, des familles dans lesquelles on parlera anglais d'abord, avant de parler français, de la même façon que pendant très longtemps, et d'ailleurs c'est encore le cas en Roumanie dans certaines familles, on parle français en famille, avant de parler roumain, parce que c'est la langue la plus importante, la langue brillante, la langue de la culture, etc. Et ça a été vrai longtemps en Pologne. J'ai encore des amis de mon âge qui ont appris à parler français avant de parler polonais, à table quand ils avaient 5 ans. Et je pense qu'on va en arriver là, parce qu'il y a un rapport de force, tout simplement.
C'est une approche qui est faite au nom du pragmatisme et d'une certaine efficacité. Est-ce qu'on peut blâmer ceux qui utilisent cette voie-là?
Moi, je pense que ça peut peut-être nous permettre de perdre la célèbre vanité française qui fait qu'on a longtemps cru qu'on était les meilleurs du monde, que tout le monde devait parler notre langue.
C'est très surprenant, parce que le coup de canif bien plus important, c'est d'une manière paradoxale, c'est la loi Fillon du 23 avril 2005. Qui impose l'apprentissage d'une langue étrangère dès l'école primaire, en sachant qu'en France, ça va être l'anglais. Et en fait, on est dans une situation paradoxale en France, de vouloir résister à l'anglais et de l'apprendre massivement, de l'utiliser effectivement comme le seul argument, j'allais dire, important. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on baisse les bras. Si cette loi avait été beaucoup plus orientée vers « on va apprendre justement des langues étrangères, mais beaucoup plus larges, dans un périmètre beaucoup plus important. Et notamment, quand on apprend une langue, on ne devrait pas en apprendre une, mais deux. »
Oui,
C'est un élément qu'il y a dans la loi. Apprenons deux langues, et surtout pas une.
Donc là, vous modifiez un peu la question de ce soir. C'est qui pourrait être jusqu'où imposer la langue de Shakespeare. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'imposer une langue, puisqu'en sachant qu'en imposant une langue étrangère, on sait que ce sera aujourd'hui, en tout cas, l'anglais, Xavier Combes.
Je crois que le moment est venu de faire la distinction entre langue vernaculaire et langue véhiculaire.
Absolument.
La langue vernaculaire, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, la langue vernaculaire, c'est la langue d'une communauté linguistique, et la langue véhiculaire, c'est la langue qu'emploient des gens de communautés linguistiques différentes pour se comprendre. L'anglais, à l'heure actuelle, en France, a davantage un statut de compétence que de langue. L'anglais tel qu'on le parle dans les entreprises, l'anglais tel qu'on veut l'enseigner aux enfants, c'est pas du tout l'anglais vernaculaire. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de donner une compétence aux enfants. Une compétence véhiculaire. Alors cette langue, il faut bien savoir qu'elle est indigente, elle supporte l'approximation.
C'est ce que vous appelez le globish.
C'est le globish. C'est un mot valise qui est global English,
l'anglais mondial. Ça dit bien ce que ça veut dire.
Voilà, tout à fait. Donc c'est le globish qu'il faut promouvoir et dont on a besoin comme compétence. C'est indiscutable. Donc ça, on en a besoin absolument. Mais il faut pas penser que c'est l'anglais qu'on va imposer, la langue vernaculaire, qui est l'anglais qui va rivaliser avec le français.
Dans votre livre que je citais au début d'émission, vous citez Winston Churchill qui dit de l'anglais, c'est une langue très facile à parler mal.
Oui.
J'aime beaucoup cette phrase.
Bah, c'est Winston Churchill, oui, c'est tout est dit, parce que c'est une langue qui supporte l'approximation, qu'on peut parler assez facilement dès les débuts. Évidemment, plus on avance dans l'apprentissage de l'anglais, plus on se rend compte de la richesse sémantique, des nuances grammaticales, et puis évidemment, c'est ancré dans une culture et une littérature immense.
Bien sûr.
Donc finalement, il y a peut-être de très bonnes raisons, Chantal Delsol, de ne pas s'inquiéter outre mesure s'agissant de l'anglais, de sa diffusion, mesure où c'est une langue qui est dénaturée, en tout cas telle qu'on la pratique dans le monde.
Il vaut peut-être mieux laisser faire quand on vous dit que les enfants doivent apprendre l'anglais dans les écoles, parce que sinon, vous n'aurez qu'une classe supérieure qui apprendra l'anglais, et les autres ne pourront quasiment plus sortir du territoire, ce qui est déjà un peu le cas. Parce que pendant très longtemps, on nous a dit, après tout, apprendre des langues en France, vous savez, c'était un truc technique un peu idiot. Moi, j'ai toujours entendu dans ma famille, les garçons n'apprennent pas de langue. Ça, c'est stupide. C'est fait pour les filles d'apprendre des langues. C'est un machin technique, c'est comme, vous voyez, c'est comme de balayer par terre. Hein. Je pense qu'il faut rendre sa noblesse à l'apprentissage des langues et le faire dans toutes les écoles et pour tout le monde. Parce
Absolument.
Que sinon, vous aurez un petit milieu minuscule.
Sauf que, comme vous le disiez tout à l'heure, Xavier Combes, s'agissant de l'anglais, même dans sa version dénaturée, donc dans sa version véhiculaire, ça véhicule aussi justement autre chose que des mots, ça véhicule des idées qui sont peut-être pas des idées.
C'est tout le problème.
Avec lesquelles on a toujours envie d'être d'accord, Chantal Delsol.
Oui, moi j'aimerais bien quand même en rajouter encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure à ce propos, l'obligation, vous avez raison de dire, monsieur, que c'est difficile d'obliger les gens à apprendre des langues parce que c'est une affaire d'amour. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Néanmoins, il y a quand même des manières de persuader. J'ai donné dans mon article récent l'exemple de ces réunions de parents. Vous voyez arriver les deux parents du gosse et les deux parents parlent pas français du tout. Hein. Alors, ils amènent le grand frère avec eux qui traduit. C'est quand même, franchement, c'est pas génial. Parfois, c'est le grand frère qui vient tout seul.
Mais ça ne dure qu'un temps.
J'en sais rien. Je vous donner un exemple. Dans une autre vie, je me suis occupée pendant 2 ans d'une association de travailleurs migrants. C'était les années 75. Il y avait plein de migrants qui venaient notamment d'Algérie. Des familles, c'est le moment du regroupement familial. Et quand on arrivait dans les cités le matin, quand j'arrivais dans les cités le matin pour m'occuper des moniteurs, justement, qui allaient apporter de la culture, etc., et du français, notamment, je voyais pendre à toutes les fenêtres des paniers. Pourquoi ? Parce que toutes les femmes étaient enfermées chez elles. Le mari les enfermait chez elles, partait avec les enfants et le panier à provisions, et puis rentrait le soir et leur ouvrait la porte. Et ces femmes, il leur manquait un peu d'aspirine, un peu de pain, elles descendaient des paniers et on mettait les trucs dans les paniers. Est-ce que vous croyez que si on leur avait pas demandé instamment d'apprendre le français, elles auraient pas fini quand même par sortir de cette affaire de panier qui est purement symbolique, mais quand même bien parlante. Ce que je veux dire, c'est que...
Est-ce que c'est parce qu'on leur a demandé de parler le français ou c'est parce qu'on leur a donné la possibilité de suivre des cours, pas la même chose?
Ben, il y a un tout. Si les gens n'étaient pas arrivés avec un tas de moniteurs, non seulement on leur apprenait le français, moi j'ai donné des cours de couture. Enfin, bon, il y avait toutes sortes de choses. Et puis d'ailleurs, on donnait des cours d'arabe aux enfants pour qu'ils perdent pas leur langue. Il y avait toutes sortes de choses. Mais si vous voulez, s'il n'y avait pas cette acculturation, le reste ne suivrait pas. Je veux dire, la langue, quand je dis que c'est l'esprit des lieux, pour moi, c'est un peu tout passe par là, si vous voulez. Je vois pas comment on peut s'en sortir autrement.
Olivier Baud, mais il y a un élément très important dans ce que vous venez de dire, c'est que vous leur appreniez en même temps l'arabe. C'est-à-dire
que vous opposiez pas
la maîtrise du français avec le plurilinguisme et la maîtrise d'autres langues.
Bien sûr que non.
Mais oui, mais vous
leur
savez
cœur
que...
est là-bas quand ils arrivent.
Mais oui, donc vous savez que c'est la plus grosse difficulté qu'on a actuellement. Encore une fois, j'y reviens
oui,
sur le fait que
croire,
la diversité linguistique n'est pas reconnue. Vous prenez en France, en Guyane, vous avez des enfants qui arrivent à l'école en parlant 4 langues. C'est une très grande compétence, c'est magnifique.
C'est plus qu'une compétence, c'est un esprit supérieurement enrichi.
Voilà.
C'est plus qu'une compétence,
mais ça donne une ouverture sur le monde qui est plus qu'une compétence.
Et ils arrivent à l'école et malheureusement ils tombent pas en face de Madame Delsol qui aurait pris en compte leur langue, mais ils tombent face à des enseignants de français qui ont interné là et qui ne parlent que français et qui vont leur apprendre que l'école de la République c'est en français et ils vont manier le français depuis le début. Et là, ils vont chuter considérablement en compétences cognitives et on va avoir des taux de, d'échecs énormes en fin de scolarité. Tout simplement parce qu'on n'a pas associé maîtrise, développement du français et des autres langues, notamment de leur langue maternelle. Ça, c'est un élément qui est toujours catastrophique en France. Et vous le voyez, si je reviens sur la clause Molière, on n'arrive pas à associer tout ce que vous dites qui est très beau d'ouverture avec le français, mais avec aussi les autres langues. Et pour, je voudrais pas faire un petit clin d'œil à une marque américaine, mais venez avec votre langue aussi. Venez apprendre une langue, mais venez aussi avec votre langue, c'est important.
Un enfant qui parle quatre langues, c'est un fils d'ambassadeur, donc je pense
non,
que dans sa famille, il doit bien trouver...
Non, Guyane, les enfants qui parlent quatre langues, c'est ceux
c'est
des...
Quatre langues, c'est pas rien.
Bien sûr, mais c'est ceux qui vivent dans les petits villages, au bout de, du fleuve, sur les pirogues, parce qu'ils parlent créole, brésilien, palicourt, et moins bien le français. Et puis le français va être le seul langue qu'ils vont rencontrer par la suite, et celles-là, ils n'auront pas accès ou très difficilement.
Mais vous suggérez parce... qu'on donne des cours de créole et de tout.
Bien sûr, je suis bien sûr. Et vous avez la même, vous avez eu le même effet avec la langue des signes. Hein, si vous acceptez pas de pouvoir faire construire un dialogue des langues et des passerelles entre les langues, y compris au moment où les enfants à 6 ans développent. C'est très dur quand même d'apprendre à la fois le français et les maths en français et l'histoire en français et les sciences en français. Non, vous pouvez avoir un objectif à la fin de maîtriser parfaitement le français, qui est la langue de l'État, qui est la langue de la République, c'est une très bonne chose. Mais pour cela, vous avez besoin de vous appuyer sur la diversité linguistique et la reconnaissance des autres langues.
Bien sûr.
Et voilà. Et ça, c'est le piège en France. Toujours, c'est on veut la diversité linguistique à l'international, en disant il ne doit pas y avoir que l'anglais, il doit y avoir aussi le français. Mmh. Et on a une politique inverse en France, qui est de dire attention, il n'y a qu'une seule langue.
Les chercheurs, comme vous, en sciences des langages, en sciences du langage, les traducteurs, les interprètes, les linguistes, s'époumonnent depuis des décennies pour vanter les mérites de l'enseignement du plurilinguisme. Oui. Que fait la police? Rien. On est là à toujours vouloir imposer l'anglais comme étant la langue étrangère universelle. Si on imposait le plurilinguisme à un très jeune âge, dès l'école primaire, à l'échelle européenne, d'abord ça favoriserait le rayonnement du français en Europe, ce ne serait pas une mauvaise chose.
En quoi ça le favoriserait?
Ben, si chacun des pays européens était tenu d'avoir une politique de plurilinguisme à l'école primaire, le français serait plus enseigné dans les autres pays européens, notamment les pays voisins, ce qui serait une bonne chose. On pourrait envisager une politique européenne
en matière de plurilinguisme.
Bien sûr, avec une réciprocité. Et puis, je pense que le français étant une des langues dominantes de l'Europe, les autres pays auraient intérêt à apprendre cette langue aussi.
Oui.
Voilà, donc cette politique devrait être menée à l'échelle européenne.
Mais est-ce qu'on n'a pas un problème de prof en France?
Non, parce qu'il faut voir
que... Quel est le problème?
Parce que, justement, on a cette double contrainte qui est de dire il n'y a qu'une seule grande et belle langue universelle qui est le français.
Ouais, c'est ça, c'est la vanité française.
On a des pays qui... Enfin, on met énormément d'heures dans l'enseignement des langues étrangères. Ça fonctionne mal, non pas parce que les enseignants sont mauvais, mais parce qu'on est dans cette contrainte où c'est en même temps pas bien d'apprendre une autre langue.
C'est ça.
On a cette difficulté-là. Oui. Ouais. Il suffit d'apprendre. Mais ce que les linguistes, et vous avez raison, savent très bien depuis toujours, c'est que le cerveau est fait pour... accueillir différentes langues.
Le cerveau d'enfant peut accueillir plusieurs langues.
Tous les
cerveaux.
Mais
si
on conditionne à une seule langue, alors on a ce blocage par la suite.
Il y a un autre problème en France qui explique cette situation, c'est que l'anglais est considéré comme une compétence, mais c'est aussi un outil de pouvoir dans les élites, notamment en entreprise. Plus on monte haut dans la hiérarchie, plus l'anglais est convenablement maîtrisé. Et donc, certains dirigeants d'entreprise, je dirais même l'ensemble, moi je vois ça comme interprète, exploitent cet outil de pouvoir au détriment des gens.
Il paraît que c'est pas toujours le cas. Il y a Henri Guénaud qui était sur France Info il y a quelques jours de cela, qui réagissait à tout un tas d'actualités, notamment cette clause Molière, et qui disait plutôt, alors que d'essayer d'imposer justement le français sur les chantiers, on ferait bien de l'imposer dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Et il prenait l'exemple, alors il n'a pas cité son nom, mais du conseil d'administration de Vivendi. Il racontait qu'un grand patron lui avait confié que les conseils d'administration se passaient systématiquement en anglais et qu'il lui arrivait de voter sur des décisions qu'il n'avait pas toujours bien comprises.
Mais bien sûr, il y a des malentendus formidables dus à une mauvaise maîtrise de l'anglais, je peux vous en citer.
Vous avez un autre exemple que vous nous avez cité l'autre jour quand on vous a invité pour l'émission, qui était une affaire à Épinal.
Ah oui, l'affaire des la sinistre affaire des irradiés d'Épinal. À l'hôpital d'Épinal, il y a déjà de nombreuses années, il y a eu des patients qui ont été irradiés. Certains nous écoutent peut-être d'ailleurs, fortement irradiés, parce que les manipulateurs du matériel médical n'étaient pas à même de comprendre les manuels d'utilisation qui étaient rédigés en anglais, qui n'avaient pas été traduits. Donc, il y a eu des malentendus qui...
Ce qui là contrevenait à la loi, a priori. Enfin, peut-être que la loi Toubon n'était pas encore passée à l'époque.
Je ne sais pas, c'est peut-être antérieur à la loi Toubon, c'est peut-être pas d'ailleurs complètement décorrélé, cette affaire-là. Mais même dans les entreprises et ailleurs, il y a des malentendus terribles en raison de cette mauvaise utilisation de l'anglais par les Français. Les faux amis sont légion, hein. Je peux vous citer de nombreux exemples. Si vous dites... Un mot très utilisé qui est global, voilà un mot qui contamine la langue française. On dit global pour dire mondial. Qu'est-ce qu'on va dire pour dire global pour dire d'ensemble? L'Oréal, par exemple, a une politique globale. Ça veut dire mondial. La Poste a une politique globale. Qu'est-ce qu'on entend par global dans ce cas-là? Est-ce que la Poste a une politique mondiale ou une politique d'ensemble? Comment est-ce qu'on reflète la notion de globalité maintenant que l'anglais nous empêche d'utiliser le mot global dans sa première acception? D'autres mots, énormes malentendus constamment dans le monde de la politique, nous interprètes à la FICI, nous vivons ça en permanence entre liberal et libéral. Malentendu terrible! Prenez Delanoé par exemple, il n'a pas dit ce qu'il voulait dire, on ne comprend rien de ce que les gens veulent dire. Liberal en anglais c'est progressiste, c'est l'apanage du Parti démocrate. Libéral, c'est la politique libérale du laisser-faire de l'économie de marché.
Ça, c'est un exemple qui doit parler à l'historienne des idées que vous êtes, Chantal Delsol.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec un très grand nombre de difficultés de ce genre.
Et nous interprètes, on est là pour essayer de démêler les malentendus aussi,
parfois. Parce que ça a toujours été mal vu en France d'apprendre des langues, et que le prof de langue, c'est toujours le type le plus risible. Enfin, il faut absolument sortir de là. Hein.
Finalement, ça veut dire quoi? C'est en s'ouvrant davantage aux langues étrangères, aux autres langues, qu'on défend le mieux l'usage et le sens du français.
Mais je pense, bien sûr. Bien sûr.
Vous voyez que si vous allez au bout de votre analyse sur la clause Molière, vous allez prôner en même temps la diversité linguistique.
Non, mais attendez, à condition quand même qu'on pense bien que la France, c'est quand même le français.
Absolument. C'est le français dans le respect des autres langues.
J'entends un candidat qui dit il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France. Non, il y a une culture française et une langue française.
Emmanuel Macron, je crois qu'il
y a une langue française. Il y a aussi d'autres langues en France. Mais la langue de la France, c'est quand même le français.
C'est notamment la langue de l'État. Et là-dessus, l'État a très bien équipé la langue de tout un attirail juridique pour protéger cette idée de protéger les personnes.
Ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des langues vernaculaires, enfin des langues des patois et autres, c'est une critique de la République en tant que telle, parce que c'est.
Là, c'était la clause Barbie.
C'est la République qui est idéologique davantage que le français. C'est la République qui a imposé.
Mais une République qui n'accepte.
Le lundi matin, de Pau à Tourcoing, tous les Français, tous les enfants de France doivent ouvrir leur livre de géographie à la page 1. Ça, c'est quand même c'est le délire de la République.
Vous avez Xavier Darcos qui voulait faire de tous les enfants français des bilingues aussi, en anglais, bien entendu.
Mais ne pensez pas que le pouvoir dont vous parliez dans la langue, entre le pouvoir de l'anglais et le français, n'existe pas au sein même d'une langue. Au sein du français, le pouvoir est présent tout à fait ici. Je vais vous donner une mini-anecdote en 20 secondes, si vous voulez. Les auditeurs qui nous écoutent là, nous écoutent en français et entendent, par exemple, le français que nous parlons. On parle différents français en même temps, enfin, au sein de la langue française, et notamment le taux de liaison facultative que nous faisons. Et vous savez que plus on repère des liaisons facultatives, c'est-à-dire plus on repère de l'écrit des paroles, plus on trouve que le locuteur est légitime. Et je vais vous donner cet indice pour les prochaines élections. Le président de la République a toujours été élu celui qui faisait le plus de liaisons facultatives, c'est-à-dire qu'il y avait le plus de maîtrise du français et du français écrit de la norme.
Je vais de ce pas aller réécouter le débat d'hier soir pour essayer de détecter qui sera le prochain président de la République, si tant est qu'il faisait partie de ceux qui participaient au débat d'hier, bien entendu. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Chantal Delsol, Olivier Baude et Xavier Combes. Émission que vous pouvez réécouter sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci. Merci à toute l'équipe du Grain. Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Fanny Richer, Cyril Baer, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Je vous renvoie également, si vous intéressez à ces questions de circulation de la langue française, à la semaine que consacre Culture Monde, de 11h à midi, depuis hier et jusqu'à jeudi, semaine donc consacrée aux tours et détours de la langue française. On se retrouve demain à 18h20 pour parler d'intercommunalité. Les communes doivent-elles s'unir pour ne pas mourir? Ce sera notre question.